Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bienvenue dans un nouvel épisode des Cousins Théologiens. Je suis avec mon cousin Benjamin. Salut Ben.
Salut Maxime, ça va ?
Ça va bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier, particulièrement douloureux aussi peut-être pour le chrétien, sa relation avec le péché. Le péché, le chrétien, la lutte contre le péché. Et première question, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, Benjamin. Comment ça se fait qu'un chrétien pêche ? Je pense en particulier à un passage qui m'avait troublé la première fois que je l'avais lu quand j'étais jeune chrétien. C'est 1 Jean 3,9 qui nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Puisqu'il est né de Dieu, il ne peut plus pratiquer le péché. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne devrait pas pécher ? Si on pêche, est-ce qu'on doit avoir peur de ne plus être chrétien ? Qu'est-ce que tu répondrais à un jeune chrétien qui te poserait cette question ?
Ouais. Alors on peut parler dans trop de détails vu la taille de ce podcast, mais c'est vrai que c'est donc 1 Jean 3,9 qui dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu ». Et pourtant, on regarde l'expérience de notre vie et on n'a pas besoin, je pense, de grandes argumentations pour dire qu'on pêche encore et on voit notre cœur et toutes ces choses-là, etc. Et donc, on peut être vraiment troublé par ça. Je pense que déjà, si on prend un regard plus général sur le contexte de 1 Jean en général, on voit que ce que Jean a voulu dire là, ce n'est pas que le chrétien ne va plus jamais pêcher. Parce qu'on voit dans 1 Jean, au chapitre 1, le verset 8, où Jean écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous ». Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et même au chapitre 2, verset 1, il dit « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Et donc, Jean n'exclut pas la possibilité du péché dans la vie chrétienne, pas comme quelque chose de normal, qui est normal et qu'on doit laisser faire, mais comme quelque chose où on doit venir à Christ pour trouver le pardon. Et donc ça nous aide à comprendre que ce n'est pas ce que Jean veut dire là dans ce passage de 1 Jean 3,9, mais que ce qui est probablement plutôt en vue ici, c'est que quelqu'un qui est né de Dieu ne va plus vivre la même vie qu'il vivait avant. On n'a plus le même rapport avec le péché. On ne pratique plus le péché, on ne vit plus dans le péché de la même manière, on ne va plus prendre de plaisir dans le péché. Et justement, la réaction qui est différente, c'est que quand on a péché, on va venir auprès de Christ pour trouver un avocat, pour trouver le pardon, parce qu'on sait que ce n'est pas quelque chose qui devait se faire. Donc, voilà, peut-être.
Excellent. Ouais. Ouais. Tu parles là du rapport du chrétien avec le péché. Est-ce que tu peux nous en parler plus ? Je sais que tu avais étudié ça. Tu avais étudié Romain par rapport à ça, et qu'est-ce que tu as appris à l'IBB là-dessus ?
Ouais, en fait, ça m'avait vraiment frappé quand j'ai fait le cours de grec, c'était grec 3A, un truc comme ça. On a étudié donc Romains 5 à 8 en grec, et d'étudier Romains 6, ça m'a vraiment frappé de voir, en fait, et c'est pas que c'est seulement en grec qu'on le voit et qu'en français, c'est pas une bonne traduction, etc., mais ça, j'avais plus porté les yeux sur le texte, et on voit que c'est vraiment binaire, en fait, le rapport du chrétien avec le péché. Parce que des fois, on peut avoir tendance à penser, ah, mais je pêche encore, et je suis encore à 50% dans le péché, à 50% en Christ, et un peu des deux, et il y a ma chair, il y a une lutte, etc. Et c'est vrai qu'il y a une lutte en tant que chrétien, mais on voit que c'est vraiment binaire. Paul dit, Romains 6, 2, « Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» Et dans tout ce chapitre, on voit qu'on est mort au péché et qu'on vit maintenant pour Dieu en Christ. Au verset 11, par exemple, il est dit de la même manière, comme Christ qui est mort pour le péché, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ce qui est dit dans ce verset, c'est pas juste penser que vous êtes mort pour le péché et vivant pour Dieu, même si vous l'êtes pas vraiment, mais ce qui est vraiment dit ici, c'est réaliser que vous êtes mort pour le péché et vivant pour Dieu en Christ. Et donc, le péché n'est plus, on n'est plus esclave du péché, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, et on n'est plus soumis au désir du péché, et on peut pas dire, ah, telle chose, c'est plus fort que moi. Je peux pas combattre contre ça. Bien sûr, on succombe encore, mais on a les armes en Christ pour combattre contre le péché parce qu'on n'en est plus esclave.
Ouais, à ce sujet, je crois que j'avais vu un article, ça devait être sur The Gospel Coalition, ou peut-être même sur la version française, Évangile 21, qui disait « Arrêtez de dire que vous êtes esclave du péché, mais dites que vous avez péché ».
Ouais, exactement. C'est dans nous qui sommes livrés au péché, qui nous sommes retournés dans l'esclavage du péché, en quelque sorte, pas qu'on est de nouveau devenu esclave du péché, mais on a encore obéi au désir de notre ancien maître, qui n'est plus notre maître, parce qu'on est esclave de la justice. Quoi.
Ouais. Alors encore une question pour toi, Ben. Je sais que tu as réfléchi aussi à cette question.
C'est un Benjamin sur le grill.
Parce que Benjamin réfléchit beaucoup, et donc il a réfléchi encore à ce sujet. Quelle est la place de Dieu et la place de l'homme dans la lutte contre le péché ? Quelle est la relation entre notre rôle ?
Ouais.
Donc, enfin, les rôles respectifs.
Donc je pense là on parle de ce qu'on appelle la sanctification en théologie. On pourrait le définir de la manière suivante, une œuvre de Dieu dans laquelle on participe activement pour devenir de plus en plus comme Dieu veut qu'on soit. Et j'aime bien le définir de cette manière parce qu'on voit que c'est une œuvre de Dieu, que c'est Dieu ultimement qui œuvre. C'est une œuvre de Dieu en nous, qui fait en nous, mais dans laquelle on a une participation active. Parce qu'on n'est pas simplement appelé à rester tranquillement assis sur le canapé en demandant à Dieu « enlève le péché dans ma vie ». Mais on est appelé plutôt à nous lever et à combattre le péché. Colossiens 3, verset 5 nous dit de mettre à mort le péché dans notre vie. C'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui nous est demandé. Et l'appel à grandir en sainteté, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'Écriture, dans plusieurs passages, et qu'on veut poursuivre. Mais en même temps, on veut avoir une part active, mettre à mort le péché, faire cesser ses mauvaises habitudes dans notre vie et utiliser tous les moyens qu'on a pour ça, tous les moyens que Dieu nous donne. Mais en même temps, on réalise qu'on ne peut pas y arriver seul et qu'on dépend totalement de Dieu, que c'est lui qui va nous donner la puissance de combattre contre le péché, comme voilà, cette illustration, une prise qui dépend du courant électrique auquel elle est reliée. C'est seulement comme ça qu'on peut avoir la puissance pour combattre le péché. Et Philippiens 2 nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Donc, ultimement, voilà, tout dépend de Dieu, mais ce n'est pas un encouragement à rester passif, parce que les appels de l'Écriture face au péché, c'est quelque chose de profondément actif, où on est appelé à mettre à mort le péché de notre vie et à tout faire de notre possible pour nous en débarrasser.
Voilà, donc en quelque sorte, nous agissons avec la confiance que Dieu est à l'œuvre en nous.
Exactement, oui.
Ouais, en se reposant sur ses promesses.
Et c'est un encouragement. C'est un encouragement qui nous pousse à être encore actifs d'une meilleure manière, quoi.
Ouais. Du coup, par rapport à cette œuvre de sanctification, on a quelques conseils à vous partager. Je ne sais pas si tu en as, Ben. J'ai réfléchi à trois conseils. Tu pourras donner les tiens ensuite. C'est vraiment pas des méthodes miracles. Moi, plusieurs fois, j'ai cherché sur Internet, je ne sais pas, des trucs qui pouvaient aider. Et je pense que c'est une mauvaise manière de faire. Quand je regarde le passé et tous les victoires que j'ai pu avoir, je pense que jamais c'était sur un conseil, coup de tête, déclic, même si ça peut arriver. Généralement, ça ne se produit pas comme ça. Et les conseils précieux que je garde toujours en tête quand je parle de péché, au risque de me répéter, le premier, c'est que Christ suffit. On n'a vraiment pas besoin d'un remède en plus que Christ. Il a ce qu'il a fait, ça suffit. Et si on cherche ailleurs, on se plante complètement. On va perdre notre temps. Et ça, c'est vraiment à garder en tête, même lorsqu'on pense à tout ce que Dieu nous donne comme moyen pour vaincre le péché. C'est pas des moyens qui s'ajoutent au Christ, mais c'est des moyens de puiser dans ce qu'il a fait, dans son œuvre. Et justement, puisqu'on parle des moyens de grandir en Christ, il y a évidemment la prière, l'Église, la communion fraternelle, mais il y a trois moyens en particulier par lesquels Dieu nous fait parvenir ses promesses, et c'est ce qu'on a appelé en théologie les moyens de grâce. Et en théologie réformée, on aime bien dire que ces moyens de grâce suffisent aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'en inventer de nouveau, de construire des stratégies au-delà de cela. Et ces moyens de grâce, c'est la parole de Dieu qui est prêchée, qui est écoutée, qui est lue, et ce qu'on appelle les ordonnances ou les sacrements, c'est-à-dire le baptême, la Sainte Cène, qui sont encore des moyens de nous représenter les promesses de Dieu. Et si on puise dans ces moyens-là, on a tout ce qu'il nous faut. En théologie réformée, on dit que la parole de Dieu est le moyen de grâce suprême, c'est celui qui nous permet, qui donne du sens même aux deux autres. Et c'est vraiment à ça qu'il faut être accroché. Donc, quel conseil on pourrait en tirer? D'être régulier le dimanche lors de l'écoute des prédications, d'y aller vraiment avec une soif de la parole, de prier pour avoir cette soif, de prendre des notes, de réfléchir à ce qui a été dit, d'en parler avec les frères et sœurs, et vraiment de persévérer là-dedans, y compris dans la lecture de la parole. Et du coup, j'en viens au troisième conseil, la troisième idée, Christ suffit, les moyens de grâce suffisent, c'est la persévérance. Parce que là encore, vous pouvez vous dire peut-être, oui, mais je sais que Christ suffit, et je sais que ces moyens de grâce, je les connais, mais pourtant, j'arrive toujours pas, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et je pense vraiment que la persévérance, c'est un conseil qui est rappelé souvent dans l'Écriture, et il n'y a pas de secret, en fait, il n'y a pas de bypass dans la vie chrétienne, il n'y a pas de raccourci, on doit vraiment persévérer dans ces moyens, et ils font leur œuvre bien mieux que tous les moyens qu'on aurait pu désirer. Parfois, on se dit que si c'était réglé tout de suite, ça serait tellement mieux. Et en fait, Dieu sait ce qu'il fait dans notre vie, il sait pourquoi ça prend du temps, pourquoi aussi c'est long la vie chrétienne, et il est plein de sagesse quand il fait cela.
Ouais. C'est super intéressant ce que tu partages. Et en fait, je me suis dit, mais ça me fait penser à quelque chose. Et en fait, c'est un article, ça reprend un peu un article que tu avais écrit pour la REB. On pourra mettre le lien. Vaincre le péché quand on a déjà tout essayé. Et je pense que c'est hyper clé ce que tu partages, parce qu'effectivement, on peut avoir tendance à être découragé par notre péché et à vouloir chercher autre chose. Et qui va nous amener au final en dehors de l'écriture, en dehors de ce que Dieu a donné, de ce que Dieu nous a donné pour la lutte contre le péché, et à chercher quelque chose qui sera en dehors de Christ ou en dehors de la suffisance de la parole de Dieu. Et donc c'est super encourageant. Ouais.
Peut-être. Est-ce que tu as des conseils à partager ou...
Moi, c'était plus les pièges à éviter, parce que je pense que c'est hyper. Enfin, ce que tu as dit, c'est vraiment ça. Mais peut-être dans les pièges à éviter, on voulait aussi mentionner quelques pièges par rapport à ça. Alors il y en a peut-être beaucoup, mais le piège du perfectionnisme. Et là, je vais simplement renvoyer vers Pascal Denot dans son livre Le côté obscur de la vie chrétienne, qui parle de ça dans sa partie sur le rapport du croyant avec le péché. Mais si on prend le tableau large de l'écriture, on ne peut pas dire que le croyant peut arriver sur sa terre à un stade où il ne péchera plus et à la perfection. C'est ce que certains ont avancé dans le passé, mais c'est pas ce que l'écriture promet en tout cas. Il y a un jour où on sera libéré totalement du péché, et combien on a hâte d'arriver à ce jour-là, mais c'est pas encore ce qu'on vit. Et donc on est encore, même si oui, on est esclave de la justice et qu'on n'est plus esclave du péché, il y a encore cette tension-là où on vit le péché, on pêche encore. Et on doit être réaliste là-dessus pour ne pas nourrir de faux espoirs et pas être découragé de la mauvaise manière par rapport à notre péché. Mais en même temps, ce n'est pas un encouragement à être inactif et à ne rien faire, parce qu'on est clairement appelé à mettre à mort le péché. Et l'autre piège, ce serait de se reposer de la mauvaise manière sur la grâce, de dire « mais Dieu m'accepte alors que je ne le mérite pas ». Voilà, c'est la grâce seule, c'est l'évangile, c'est merveilleux. Je suis pas la valeur de ma vie chrétienne ne dépend pas de ce que moi j'ai fait, mais de ce que Christ a fait et amène à ça. Mais ça ne nous encourage jamais à continuer dans le péché. C'est ce que Paul dit d'ailleurs au début de Romains 6. On ne va pas persévérer dans le péché parce que la grâce abonde. Au contraire, la grâce nous appelle plutôt à mettre à mort le péché dans notre vie, à cesser le péché dans notre vie, à poursuivre ce que Dieu aime. C'est ce qu'on voit dans Tite 2, 11 à 14, par exemple. On voit que la grâce est le moteur de la vie chrétienne. Et donc ça, ce serait peut-être deux pièges à éviter parmi d'autres, mais ouais, par rapport au péché.
Moi, j'avais pensé à des pièges d'une autre nature. C'est un peu les pièges des faux raisonnements qu'on peut avoir en tête pour échapper aux commandements de Dieu. On sait que les pharisiens étaient très doués avec ça. Et je pense que nous aussi, on est assez doués pour ça. Alors, pourquoi je parle de la loi de Dieu? Parce que c'est comme ça que Jean définit le péché. Hein. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et il y a plusieurs façons dont on peut mal comprendre les commandements de Dieu. Je pense une première mauvaise façon, je vais les lister simplement comme ça parce que je compte les développer un peu plus dans un article et ça serait trop long là pour un podcast. Ça serait de se contenter d'éviter le mal. Par exemple, on se dit « Ah mais je fais pas ça ». Mais Jacques nous dit que si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet encore un péché. Un autre piège, ce serait de penser en général et pas en particulier. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple se dire « Ah oui, c'est bien d'aimer son prochain, mais quand il s'agit de telle personne dans notre famille ou dans notre entourage, alors on se dit « Ah non, là par contre c'est trop dur, Dieu ne me demande pas ça, etc. » Et en fait on relativise la loi de Dieu en la gardant dans le cadre général. Un autre piège aussi qu'on peut avoir lorsqu'on est confronté à une prédication qui est censée nous reprendre en fait, c'est au lieu de se l'approprier, de se dire « Ah mais ça serait bien que lui il écoute, tu sais, de penser à un autre. Ah ça lui ferait du bien lui d'entendre ça. » Sans réfléchir d'abord « Ah oui mais est-ce que Dieu est en train de me parler aussi, tu vois ?» Un autre piège, c'est de reporter à demain. Je crois que c'est Lewis qui disait que Satan se rit de notre obéissance de demain. Parce que y a de fortes chances, on nous connaît, on ne connaît pas le lendemain, on sait très bien comment ça se passe. Il y a de fortes chances que si on n'obéit pas aujourd'hui, on n'obéisse pas demain. Un autre piège, ça serait celle de... Encore un piège de pharisiens, ce serait d'obéir avec un cœur partagé. C'est-à-dire d'obéir, mais au fond... parce qu'on veut bien se satisfaire de ça, mais on n'a pas un cœur entier dans ce qu'on fait. Ou alors, pour relativiser, j'avais pensé à autre chose encore, se dire que c'est trop tard pour vaincre ce péché, que c'est trop tôt, ou alors que ce péché est trop fort, ou qu'au contraire, il est trop petit, ça ne vaut pas la peine. Et tout ça, c'est des manières qu'on a de... On est très doué, en fait, pour ne pas se sentir concerné par la loi de Dieu.
Non, c'est vrai.
Ou si vous avez un naturel philosophique aussi... On pourrait penser au piège de philosopher sur la loi de Dieu au lieu de l'appliquer. Je pense au fait, j'avais lu un traité d'Augustin sur le mensonge où il pose des questions très intéressantes. Néanmoins, dans la plupart des cas dans lesquels on se trouve, on sait très bien si on est en train de mentir ou non, et si ça paraît assez clair ce qu'il faut faire. On n'est pas dans des cas de conscience compliqués. Et donc, même si c'est utile de réfléchir à l'éthique, je pense que dans la plupart du temps, on sait comment agir et il nous manque juste la volonté, en fait. Ouais. Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres pièges en tête, Benjamin.
Non, peut-être juste, mais j'ai hâte que ton article sorte, là, parce que c'est intéressant. Mais peut-être juste pour terminer, avant de te laisser conclure, avec une note d'encouragement. Ça rejoint un peu ce que tu as dit, mais la solution, quand on parle de péché, ben, on doit toujours revenir à la croix. C'est toujours ça qui va nous... Enfin, j'avais écrit un article sur la REB, la croix lance deux appels à ceux qui ont chuté, et ça m'encourage de me rappeler ça, que c'est à la fois là, en revenant à la croix, qu'on va voir l'appel à trouver le pardon de la part de Dieu, parce qu'on a péché et on mérite un jugement de la part de Dieu, mais on voit que Christ est mort pour nous sauver, pour nous racheter, on voit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et quelle merveilleuse nouvelle, et donc la grâce est toujours là pour nous accueillir face au péché, il y a toujours une solution, c'est jamais une impasse, mais en même temps, la croix nous motive à mettre à mort le péché dans notre vie, parce qu'on voit l'horreur du péché, de ce que ça a coûté à Christ, et on voit que le péché est quelque chose de terrible, qui provoque le jugement, la colère de Dieu, et donc on veut fuir le péché, et donc c'est toujours revenir à la croix, à ce que Jésus a fait, et qu'on soit toujours encouragé, voilà, à la fois trouver le pardon, ce pardon merveilleux de la part de Dieu, et à lutter pour le péché dans notre vie.
Merci Benjamin pour cet encouragement. En effet, j'ai commencé par ça dans mes conseils, on conclut par ça, la suffisance de Christ. Et je pense que c'est important vraiment. On peut pas trop insister là-dessus sur le fait que c'est sur la base d'une conscience qui est en paix vis-à-vis de Dieu qu'on peut se battre contre le péché. Parce que si on croit encore que le péché est notre ami, on va pas le mettre à mort.
Ouais, c'est vrai.
Ok, bon, super. Sur ces bonnes paroles, on vous laisse. Ouais. On ne sait pas encore quel sera le sujet du prochain épisode, mais on vous tient au courant. Et voilà, on vous dit à la prochaine fois.
Salut!